Seigneur bien-aimé, grand Dieu, merci pour ce moment que tu nous accordes encore par ta grâce. Nous voulons te bénir pour le souffle de vie que tu nous as accordé depuis le matin. Tu as vaqué à nos occupations, tu nous as accompagnés partout. Et maintenant, Seigneur Dieu, tu viens encore nous rassembler comme de petits-enfants autour de toi. Merci pour ce privilège. Nous te bénissons, Seigneur, de parce que tu vas nous parler. Nous te bénissons, Seigneur, de parce que toi, tu vas nous diriger. Tu vas utiliser ton enfant, ton serviteur, pour nous conduire, Seigneur. Seigneur Dieu, avant de commencer, nous voulons, Seigneur Dieu, nous confier à toi et confier nos cœurs, nos âmes, Seigneur Dieu. Tu as vu comment nous avons marché, Seigneur Dieu. Peut-être, dans un moment, nous n'avons pas été agréables à toi. Seigneur Dieu, nous reconnaissons notre état de pécheur. Tu vois chacun de nous, Seigneur Dieu, qui est présent en ligne, Seigneur Dieu, qui veut t'écouter. Seigneur Dieu, nous voulons être sanctifiés par toi. Nous voulons, Seigneur Dieu, être lavés par le sang de ton Fils Jésus-Christ. Merci, grand Dieu, parce que, Seigneur Dieu, dans ta parole, tu nous rassures que quand nous demandons pardon de nos péchés, tu es digne et fidèle de nous pardonner et de nous purifier de toute iniquité. Oui, grand Dieu, merci. Force de cette parole, de, Seigneur, de nous te disons merci pour le pardon que tu accordes à chacun de nous qui présent. Tu vois comment nous sommes, Seigneur Dieu. Seigneur Dieu, du début jusqu'à la fin, nous voulons être sous ta direction. Conduis-nous, Seigneur Dieu. Parle-nous, Seigneur Dieu. Convainc-nous, Seigneur Dieu. Reproche, Seigneur Dieu, là où tu peux nous reprocher. Et Seigneur, donne-nous à prendre une décision qui te plaira. Nous voulons te prier pour nos bien-aimés qui ne sont pas encore là, Seigneur Dieu, aide-les à nous rejoindre. Et ceux-là qui sont en train de nous écouter à la radio, grand Dieu, fais de même pour chacun de nous. Nous te bénissons, Seigneur Dieu. Utilise ton enfant, Seigneur Dieu, le pasteur Célestin qui va nous conduire. Merci pour les interventions qui viendront de toi. Nous te rendons grâce, nous te bénissons. Au nom de Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur. Amen.
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 Merci bien, Frère Méda, pour la prière. Frères et sœurs, nous prenons les textes des Romains qui nous est recommandé aujourd'hui. Nous allons les lire avec un autre œil. Nous sommes en Romains au chapitre 9, chapitre 8 plutôt, du verset 31 jusqu'à la fin, c'est-à-dire jusqu'au 39e verset. Quand nous lisons ce verset, quand nous regardons dans notre Bible, on a donné un titre. Mais si vous étiez demandé, vous personnellement, de donner un titre à ce texte, que diriez-vous? Pendant que nous lisons le texte, vous notez votre titre à côté. Nous allons parcourir un certain nombre de membres pour savoir s'il vous était demandé à vous personnellement, que ce soit la sœur Marie-Jeanne, que ce soit la sœur Charlie, que ce soit la sœur Abéné, que ce soit le frère Gaston, que ce soit le frère Méda, que ce soit la sœur Rose, que ce soit tous ceux qui sont là. Si vous étiez demandé de donner un titre à ce que nous allons lire, qu'est-ce que vous diriez? Voilà, Sœur Rose, tu peux nous lire le texte, s'il vous plaît, Romains 8, du verset 31 jusqu'au verset 39e.
Oui, merci, pasteur. Je lis, c'est le livre de
Romains.
La Bible est long. Oui, oui, ok, 8 secondes. Je lis au nom de Jésus. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lui, qui n'a point épargné son propre Fils, mais qui l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses avec lui? Qui accusera les élus de Dieu? C'est Dieu qui justifie. qui les condamnera? Christ est mort bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu. Et il intercède pour nous. Qui nous séparera de l'amour du Christ? Sera-ce la tribulation ou l'angoisse ou la persécution ou la faim ou la nudité ou le péril ou l'épée? Selon qu'il est écrit, c'est à cause de toi qu'on nous met à mort tous les jours, qu'on nous regarde comme des brebis destinées à la boucherie. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, par celui qui nous a aimés. Car j'ai l'assurance que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni les choses présentes, ni les choses à venir, ni les puissances, ni la hauteur, ni la profondeur, ni aucune autre créature ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu manifesté en Jésus-Christ, notre Seigneur. C'est la parole de Dieu. Amen.
Merci beaucoup pour la lecture, ma sœur Rose. Si vous venez de vous connecter, frères et sœurs, nous venions d'écouter la lecture en Romains au chapitre 8, du verset 31 jusqu'au verset 39e. Notre première question, c'est de savoir s'il vous a été demandé de donner un titre à ce texte, que donneriez-vous comme titre? Donc, je ne vais pas prendre les gens au choix. Les titres, ça se donne en un mot, ou en deux ou trois mots, ou en une petite phrase. Voilà ce que j'aimerais recevoir de chacun et de chacune d'entre nous. Alors, je voulais rapidement voir une dizaine de mains pour donner des titres à ce texte. Qui voudrait commencer, s'il vous plaît? Oui, sœur Rose, tu peux commencer.
Oui, Jésus-Christ est mon assurance. Amen.
Amen. Jésus-Christ est mon assurance. Merci. Sœur Abéné.
L'amour infaillible de Dieu.
Amen. L'amour infaillible de Dieu. Ok, frère. Meda.
Dieu même.
Dieu même, merci beaucoup. Frère Gaston.
Je suis le protégé de Dieu.
Amen, je suis le protégé de Dieu. Sœur Marie-Jeanne.
Le amour de Dieu pour moi.
Ok, je n'ai pas bien suivi, là, il y a la fin qui a été.
Je disais le grand amour de Dieu.
Le grand amour de Dieu, au Seigneur. Ok, est-ce qu'il y a encore une personne qui a quelque chose pour nous dire qu'est-ce que je peux donner comme titre? Oui, sœur Abéné, tu peux encore venir, il n'y a pas de problème.
Ça me fait penser à la chanson qui est tirée de Ésaïe 54, verset 10. Quand les montagnes s'éloigneraient, quand les collines chancelleraient, l'amour de Dieu ne chancellera point de moi, l'espérance de paix ne chancellera point.
Amen. Merci beaucoup. Tout ce qui peut chanceler, tout ce qui peut monter, descendre, l'amour de Dieu ne changera jamais. Merci beaucoup. Sœur Charlie. Sœur Charlie. Ah, ce Charlie, tu ne sors pas. Regarde, ton appareil n'est pas en mute. Ok, ce Charlie, en tout cas, tu ne sors pas. Nous allons revenir à toi. Ce Suzanne.
Dieu est amour.
Dieu est amour. Merci beaucoup. Sœur Christine.
Oui, l'amour de Dieu me rend plus que vainqueur.
Amen. L'amour de Dieu me rend plus que vainqueur. Gloire au Seigneur. Sœur Charlie. Ah, je crois que tu dois avoir un problème avec ton téléphone, Sœur Charlie, tu ne sors pas. Ok. Ok, c'est pas un problème, tu ne sors pas, même si tu nous écoutes, c'est une bonne chose. Bon, en tout cas, frères et sœurs, nous avons parcouru, que ce soit du côté protection, que ce soit du côté du grand amour, l'amour infaillible, Dieu même. Nous avons en quelque sorte parcouru tous les textes déjà en voyant à cause de des actions, à cause soit de la prière qui est tirée du psaume 44, verset 23, qui est la prière qui est au verset 36. Donc du début jusqu'à la fin, nous avons déjà réellement parcouru tout notre texte et nous avons dit de quoi il s'agit. Mais nous allons plus nous arrêter sur... ok, je vois le message que la sœur Charlie nous fait là. Elle nous écoute bien, mais ne sait pas pourquoi le téléphone pose des problèmes. Ok. En tout cas, nous continuons, frères et sœurs. Dans chaque verset... Oui, je disais que dans chaque verset, il y a au moins une manifestation de l'amour de Dieu. Du premier verset jusqu'au dernier verset. J'aimerais que nous puissions nous arrêter sur le grand thème de ce texte, qui est la grandeur de l'amour de Dieu. Il protège, il donne, il intercède. J'aimerais que nous puissions relever maintenant dans chaque verset, si nous arrêtons au verset 21, le verset 31 plutôt, verset 31, 32, et nous descendons jusqu'à 39, qui voit soit un mot qui manifeste la grandeur de l'amour de Dieu. J'aimerais dire que dans chaque verset, il y a une expression qui nous témoigne, ça peut être il a donné, ça peut être qui peut être contre nous, ça peut être donc il y a toujours une expression, un mot, soit il est là, il intercède pour nous, soit même les anges ne peuvent rien contre nous. Donc tout ce qui est donné dans ce texte, c'est pour nous témoigner la grandeur de l'amour de Dieu. Alors j'aimerais que nous parcourions le texte en le visitant avec un œil de la grandeur de l'amour de Dieu. Comment est-ce que, dans le premier verset, regardez dans votre Bible, frères et sœurs, le premier verset, qu'est-ce qui souligne l'amour de Dieu? Qu'est-ce qui souligne l'amour de Dieu dans le premier verset? Je vais peut-être lire le premier verset, ou vous pouvez peut-être lire aussi dans votre Bible. Que dirons-nous donc? Ou que dirons-nous de plus? Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Qui trouve quelque chose qui exprime la grandeur de l'amour de Dieu dans ce premier verset?
Dieu est avec moi, donc je suis dans le même camp de Dieu.
Alléluia. Dieu est avec moi, je suis dans le même camp de Dieu. Je ne sais pas qui est le grand boxeur aujourd'hui ou celui qui est le plus fort aujourd'hui. sur le plan physique, imaginez quand Mohamed Ali ou Cassius Clay faisait, il n'y avait personne qui tenait devant lui. Imaginez que vous arrivez, on vous dit, vous êtes dans le camp de Mohamed Ali et vous allez vous battre avec les autres. Vous allez automatiquement vous sentir en sécurité parce que vous êtes dans le camp du champion du monde. C'est celui qui est le plus grand, le plus titré. Alors ce verset nous rassure, nous montre encore vraiment l'amour de Dieu. Si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Oui, maman Christine, tu veux encore dire quelque chose sur le premier verset?
Oui, pasteur, merci beaucoup pour la parole. Mais j'aimerais rentrer, s'il vous plaît, vous me permettez, au verset 29 et 20 et 30, pour prendre pourquoi le frère a dit cela. Au verset 29, il dit que ceux qu'il a connus d'avance, qu'il les a aussi prédestinés à être semblables à l'image de son fils, afin que son fils soit le premier d'entre plusieurs de frères. Maintenant, il continue. Ceux qu'il a prédestinés, il les a appelés. Ceux qu'il les a appelés, il les a aussi justifiés. Ceux qu'il a justifiés, il les a aussi glorifiés. Voilà ce que il a fait de nous. Et pour cela qu'il est en train de dire, nous sommes justifiés, comme disait notre frère. Nous sommes acquittés. Alors, si Dieu nous a acquittés, nous sommes dans le camp de Dieu, n'est-ce pas? Mais qui peut être contre nous? Qui peut, même si un homme ou une femme ou une puissance quelconque peut être contre nous, mais ça n'aura rien changé parce que nous sommes d'emblée dans le camp de Dieu. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Nous sommes d'emblée dans le camp de Dieu. Qui peut être contre nous? Alors, ça doit nous donner une grande assurance, frères et sœurs, que Dieu est dans notre camp. Dieu est dans ma famille. Dieu est dans ma vie. Dieu est là où j'exerce mes activités. Je travaille avec Dieu. Je fais toutes choses avec Dieu. Quelle assurance. Merci. Nous arrivons au deuxième verset. Nous sommes en train de rechercher la grandeur de l'amour de Dieu qui trouve qu'il n'a pas épargné son propre fils. Il l'a livré pour nous tous. Comment ne nous donnera-t-il pas tout avec son fils? Quelle est la manifestation de l'amour de Dieu dans ce verset? Frère Gaston, tu as encore la parole.
Permettez, pasteur, je voudrais faire un pas en arrière au verset 31.
Okay.
Qui sera contre nous? Donc, les gens peuvent s'élever, les puissances peuvent s'élever contre moi. Et dans ce passage, je comprends que tous ceux-là qui peuvent s'élever ne me vaincront jamais. Qui sera contre nous? Au verset 32, comment ne nous donnera-t-il pas aussi toutes choses? Parce que ceux qui avaient plus de valeur et ceux qui paraissaient même être impossibles, Dieu me l'a accordé. Et qu'est-ce qui l'empêcherait aujourd'hui de me donner tout ce que je peux lui demander, sachant bien que tout ce que je peux lui demander ne dépasse pas, ne représente même pas la valeur de celui qui est mort et ressuscité pour moi. Amen.
C'est encore, le premier verset, c'était une question. Le deuxième verset, le verset 32, c'était encore une question en comparant s'il est arrivé à donner. Mais à donner à qui? À donner à toi, à donner à moi. S'il est arrivé jusqu'à donner son propre fils pour qu'aujourd'hui tu sois appelé fille de Dieu, fils de Dieu. Qu'est-ce qui a plus de valeur qu'il ne peut pas te donner encore? Voilà la question qu'on te pose, qu'on me pose. Nous sommes en train de nous lamenter de beaucoup de choses. De nous lamenter du travail, de nous lamenter de la santé, de nous lamenter de l'argent, de la crise, de nous lamenter, ainsi de suite. Alors cette question nous est posée individuellement. Si un jour, il a pu te donner Jésus, comment il ne te donnera-t-il pas le travail? Comment il ne te donnera-t-il pas les enfants? Comment il ne te donnera-t-il pas ce que tu recherches? Voilà, nous continuons toujours dans chaque verset en recherchant la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, je vois encore une main. Maman Christine, tu as encore la parole.
Oui, merci beaucoup, Pasteur Séné, pour la parole. Bien-aimé dans le Seigneur, je suis au verset 33. Là, c'est encore une question de qui accusera les élus de Dieu. C'est Dieu qui justifie. Vous savez, bien-aimé, l'ennemi nous accuse toujours. Et quand je vois ce verset, ça me rappelle de ce que Jésus a fait à la croix. C'est-à-dire, quand on apporte une accusation, une fausse accusation, bien sûr, devant le trône de Dieu au nom de la sœur Christine ou frère Gaston, le Seigneur Jésus se met là. Il dit non. C'était Gaston et Christine ou Célestin. Moi, un jour, je suis monté à la croix. J'ai payé, je l'ai justifié. Donc l'acte donc qui le condamnait de ses péchés-là, moi, je l'avais déjà cloué à la croix. Il est justifié. Et ce que vous êtes en train d'amener là, c'est faux. Ça n'existe pas sur son dossier parce que moi-même, j'étais là. Voilà comment Jésus me justifie. Et ça me réjouit énormément de dire que, Seigneur, ma prière, garde-moi, qu'on apporte des accusations sur moi, mais qu'on ne me trouve pas en train de faire ce qu'on m'accuse.
Mmh.
Amen. C'est donc à quoi on m'accuse. Amen.
Amen. Merci beaucoup. Les accusations seront toujours là jusqu'à la fin de notre vie. Rappelons-nous que nous avons un accusateur. Il se tient toujours pour accuser les élus de Dieu. Mais ce verset 33 nous montre... Si je prends ce verset 33 dans la version Parole vivante, il est dit « Qui osera encore
Amen.
Accuser les élus de Dieu ?» Qui osera encore accuser les élus de Dieu que vous êtes, que je suis ? Dieu lui-même les déclare justes et les acquitte. Le marteau du juge tape sur la table en disant, je déclare mon fils, ma fille, justifié, acquitté. Mais qui va encore condamner? Qui va encore te condamner? Mais pourquoi nous devons continuer à vivre avec la culpabilité? Quand nous savons que nous sommes acquittés, libérés, affranchis, ça c'est une grande assurance et ça doit nous gonfler de vivre vraiment en sécurité que je suis libéré, je suis acquitté, mais dans le Seigneur. Voilà, nous continuons le texte en cherchant la manifestation de l'amour de Dieu. Nous arrivons au verset 33, mais si vous voulez revenir encore en arrière, au verset 31, 32 et 33, vous êtes libre. Frère Gaston, tu as encore la parole.
Pasteur, je suis au verset 33. Vous avez lu dans la parole vivante. Qui accusera les élus de Dieu dans le second? C'est Dieu qui justifie. Qui? Nous avons le Consolateur, Jésus-Christ. Il est assis à la droite du Père. Rien ne peut arriver au Père sans passer par lui. On part m'accuser.
Jésus-Christ se présente, il dit, je suis l'avocat de Gaston. Voici, j'ai payé. Voici ce que j'ai fait pour Gaston. Maintenant, moi qui suis ici sur terre, alors ma conscience, on attaque Jésus-Christ, mais il y a un autre consolateur qui est là, Gaston. C'est le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit dit à mon esprit que tu es acquitté, tu es justifié, que tout a été accompli pour toi, Gaston. Au ciel, il y a quelqu'un qui intercède pour moi. Ici sur terre, il est dans moi. Il dit à mon esprit, j'intercède, tu ne sais pas prier. Moi, je transforme cette prière. Sécurisé, donc barricadé, blindé. Et Dieu est là, il dit, oui, acquitté. Totalement sécurisé. Amen.
Amen. Totalement sécurisé, acquitté. Qui peut encore les accuser? Nous allons passer à un escalier au niveau plus supérieur. Au verset 33, il y a les accusations. Au verset 34, il y a maintenant la condamnation. Si au verset 33, on nous dit qui peut les accuser? Parce que personne, car Dieu les a déjà déclarés non coupables, déjà déclarés justes. Et le verset 34 va aller plus loin pour poser encore une autre question. Mais qui peut alors, s'ils sont déjà justifiés, s'ils sont déjà acquittés, qui peut alors les condamner? La réponse est même donnée, personne. Alors si la réponse est personne, pourquoi nous devons écouter les mensonges du diable qui fait que nous écraser, qui fait que nous accuser? Oh, tu sais, ta prière n'est pas écoutée. Tu sais, ce que tu as fait il y a 10 ans, ce que tu as fait il y a 5 ans, tu sais, tu n'as jamais été pardonné. Tu vis dans la condamnation. Tu ne sais même pas accepter le pardon de Dieu chaque jour qui est offert. Et tout cela, la réponse est qui peut condamner encore les alliés de Dieu? La réponse est très simple. Personne. Et pourquoi ces personnes? La suite, nous pouvons le partager encore ensemble. Voilà, j'encourage, frères et sœurs, nous procédons d'une manière simple pour chercher la manifestation de l'amour de Dieu dans notre texte. Et nous allons verset par verset. Je vous encourage à partager parce que nous n'allons pas dire que nous ne voyons pas la manifestation de l'amour de Dieu dans le texte. Merci. Nous revenons encore au Canada. Maman Christine, tu as encore la parole.
Oui, merci, Pasteur Séné, pour la parole. Bien-aimé, c'est au verset 34. La suite, c'est la réponse. Pourquoi on ne peut pas? Qui nous condamnera? Qui va condamner un chrétien? Donc, parce que Christ est mort. Il n'est pas resté dans la tombe, mais il est ressuscité. Mais alors, il est où, bien-aimé? Il est à la droite de Dieu. Et qu'est-ce qu'il fait là-bas? Il intercède pour nous. Comme disait notre bien-aimé, il est un avocat. Il est là pour dire que non, cet homme, cette femme, il m'a accepté dans la vie, il est justifié, il a acquitté. Parce que moi-même, j'ai payé sa dette. J'ai payé, j'ai tout accompli à la croix de Golgotha pour lui. Et maintenant, il continue même à intercéder. À intercéder pourquoi? Même pour nos faiblesses, pour que nous soyons soutenus à marcher. Il intercède, même quand nous sommes en train de suivre la méditation ici, Jésus dit, mais regarde, mesdames, regarde le frère, la sœur Suzanne. Elle est toujours là en train de suivre la parole pour qu'elle tienne dans la foi. Voilà ce que le rôle que notre Seigneur fait. C'est vraiment admirable d'avoir un pareil sauveur. Amen.
Amen. Merci beaucoup pour le travail que le Seigneur est en train d'accomplir. Un travail, non seulement il a réalisé un travail qu'aucun homme ne peut réaliser sur la terre pour l'humanité. Au verset 33, qui va accuser les élus de Dieu? la terre, personne. Tout simplement parce que Jésus-Christ, il est mort. Il n'est pas resté dans la tombe. Il est ressuscité. Il n'est pas seulement ressuscité. Il se tient à la droite de Dieu. Et il continue à plaider. Il continue à intercéder. Il continue. J'ai vu un mot très, très fort dans la version Parole vivante, le verset 34. Il est assis à la droite de Dieu et il plaide.
Amen.
Notre cause. Voilà le travail que le Seigneur est en train de faire. Parce qu'il ne veut perdre personne de ce que, de ceux-là que le Père a appelé. Il ne veut perdre personne. Non seulement on ne peut pas les accuser, mais on ne peut pas les condamner non plus.
Amen.
Mais le travail qu'il fait auprès du Père, un travail très effacé, nous l'ignorons même. Et nous vivons comme si rien n'était. Mais pourtant, il y a une personne qui se tient, qui plaide la cause de chacun et de chacune, chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Merci beaucoup. Nous continuons en regardant d'une manière panoramique notre texte, en cherchant quelle est la manifestation de l'amour de Dieu. Dans chaque verset, il y a la manifestation de l'amour de Dieu. Frère Albert, tu as la parole.
Merci, frère Pasteur, pour cette parole. Permettez-moi de revenir au verset 32. La parole nous dit, il n'a pas épargné son propre fils, mais il l'a livré pour nous tous. La partie qui suit, c'est ça qui me concerne beaucoup. Comment pourrait-il, avec lui, ne pas nous donner tout? C'est ici où je me limite. Comment pourrait-il, avec lui, c'est le mot qui me concerne, avec lui. Mais bien aimé, c'est interpellant. Très souvent, quand on est chrétien pour plusieurs personnes, on pense que Dieu a des obligations pour nous. C'est vrai, il est notre Père et il a fait beaucoup de promesses. Mais bien aimé, quand on a reçu Jésus-Christ et si réellement on est avec Christ, il y a une condition pour que nous puissions demeurer en conformité avec Dieu et espérer que Dieu puisse être avec nous en harmonie, même dans nos prières, même dans nos requêtes. On fait des requêtes et puis dans nos requêtes, dans l'équation, on écarte Jésus-Christ et nous voulons que Dieu puisse nous répondre favorablement. Mais de quoi nous parlons? De qui on veut se moquer? Nous avons nos propres aspirations, nous avons nos ambitions, nous avons nos intérêts, nous avons nos visions, tout ça. Jésus n'est pas impliqué, mais nous voulons que Dieu puisse nous donner tout, mais sans Jésus. Or, la parole nous dit ici, comment pourrait-il avec lui? Mais nous ne voulons pas les mots avec lui, mais nous voulons seulement Dieu qu'il nous donne. Ça ne marche pas comme ça, mais bien aimé. Christ doit être au centre de nos vies, dans notre marche avec le Seigneur. Sinon, le reste, ça devient de la blague et de la moquerie de cette vie spirituelle. Et la croix de Jésus-Christ devient inutile. Et c'est un entorse contre Dieu. Respectons Dieu tout en gardant la relation et au centre de nos vies, Jésus-Christ, qui est l'étendard de notre vie et de notre victoire dans la foi spirituelle. Sinon, n'espérons rien de Dieu. Merci, que Dieu soit loué.
Amen. Merci, frère Albert. Il est le centre de tout, ce Seigneur. C'est par lui que nous devons tout avoir auprès de notre Dieu. Merci beaucoup. Sœur Brigitte, tu as la parole. J'aimerais, quand on intervient, qu'on soit le plus bref possible, parce que nous avons encore beaucoup, beaucoup de choses à dire dans ce texte.
Oui, merci beaucoup, Pasteur, pour la parole. Allô?
Oui, allez-y.
Moi, je voulais partager ce passage. Je l'aime beaucoup, beaucoup. Une fois, j'ai expliqué à quelqu'un, il ne comprenait pas. Et j'ai pris l'image dans une cour de justice. Il y a le juge qui est là et il y a des témoins. Il y a des témoins à charge et des témoins à décharge. Les témoins à charge, c'est le diable qui est représenté comme le diable. Et puis, le témoin à décharge, c'est Jésus. Lui, il vient avec ses accusations, il dit tel fait, regarde dans sa bouche, il a fait ça, il a fait ça, elle a fait ceci, elle n'a pas été ceci. Mais Christ qui est là, le témoin à décharge, pour enlever toute cette charge-là, il dit, il regarde le Père, il dit, Père, oui, elle a fait tout ça, mais moi, je suis mort sur la croix pour elle. Et là, le juge prend son bâton, là, le marteau, là, il frappe, acquitté. C'est ce que je voulais partager. Donc, je suis acquitté de toutes les accusations de l'ennemi. Amen.
Amen.
Oui, merci beaucoup. Nous sommes acquittés et que tout ce que l'ennemi peut venir et présenter devant le Père, la déclaration sera toujours la même. Elle est acquittée, il est acquitté, il est justifié, il est juste devant moi. C'est comme ça que Dieu nous voit au travers notre Seigneur Jésus-Christ. Voilà, frères et sœurs, nous continuons. Nous arrivons au verset 35. Et au verset 35, j'aimerais que nous puissions lier le verset 35 au verset 38. Parce qu'au verset 35, on va nous poser la question, qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Là, on voudrait voir les personnes. Les personnes ont une grande influence dans notre vie. Ça peut être notre chef de travail, ça peut être les parents, ça peut être les voisins, ça peut être tous ceux qui ne nous aiment pas, qui nous condamnent, les personnes. Au verset 38, nous verrons maintenant quelles sont les choses dans la vie qui peuvent nous faire dire non, cette fois-ci le Seigneur ne m'aime pas. Les choses, les difficultés, les choses que nous traversons. Voilà, j'aimerais que nous puissions lier 35 à 38, mais en partageant les autres versets, en cherchant la manifestation de l'amour de Dieu. Oui, frère Gaston, tu as la parole.
Merci, pasteur. Je reviens au verset 34. Qui les condamnera? Si Christ n'était pas mort, mes dettes allaient être payées et j'allais être sous la loi et être condamné. On pouvait me condamner facilement. Mais il est mort. Comme il est mort, il a tout payé. Il ne s'arrête pas là, il est ressuscité. Et qu'est-ce qu'il fait? Il intercède pour moi. Je comprends, c'est fort que moi, Gaston, que le monde peut négliger, même les grands riches peuvent négliger, j'ai du prix et de la valeur devant Dieu. Jésus-Christ, nuit et jour, il intercède pour moi. Pourquoi doit-il le faire? Il intercède pour moi. Et la Bible me dit que j'ai du prix de la valeur. Donc, là où je suis, même ce que je traverse, j'ai du prix et de la valeur devant Dieu. Et Jésus-Christ intercède pour moi. C'est là me fortifie, me donne encore plus de force de continuer. Au verset 35, permettez, pasteur, d'enchaîner. Qui me séparera de l'amour du Christ? Lorsque un passage dans Hébreux qui dit que il n'y a que Jésus qui peut séparer l'âme et l'esprit. Qui peut me séparer? C'est impossible de séparer Gaston de Jésus. C'est impossible. Les hommes peuvent tuer ce corps, mais ils ne peuvent jamais me séparer de Jésus-Christ. Je ne sais pas si je me fais comprendre. Donc, le corps peut être détruit, mais on ne peut jamais séparer Gaston de Jésus-Christ.
Amen.
Vraiment, je trouve ça très fort. Quel amour que Dieu accepte que je sois si soudé à lui et que c'est impossible, personne. À moins que ce soit lui, et pourtant il est amour, il ne peut pas. Alors, rien. Merci beaucoup.
Alléluia. Merci beaucoup. Rien du tout ne peut nous séparer de l'amour de Dieu. Qui nous séparera de cet amour? Ou qui nous sépare? Qui peut nous séparer de cet amour de Christ? Et un certain nombre de choses sont citées et c'est là qu'il va continuer même au verset 38. Est-ce que c'est la détresse? Est-ce que c'est la persécution? Est-ce que c'est la faim? Est-ce que c'est la crise? Est-ce que ce sont les privations? Est-ce que ce sont les différents dangers? Est-ce que c'est la mort? Qu'est-ce qui peut nous séparer de l'amour de Dieu? Et nous pouvons même continuer cette liste nous-mêmes parce que quand ce texte a été écrit il y a des milliers d'années, ces choses, peut-être c'est ce que nous vivons aujourd'hui. Il y a des gros mots qui sortent aujourd'hui, la crise macroéconomique, des gros mots qui sortent aujourd'hui. Mais tout cela, il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Christ. Rien. Oui, il y a une personne qui a levé la main que je n'ai pas vue. J'entends une personne parler. Ok, maman Christine, tu as encore la parole.
Merci beaucoup, Pasteur Célé, pour la parole. Je suis au verset 35 et 38. Ce qui me touche ici, c'est qu'on nous démontre ici que parfois nous traversons des situations difficiles. La tribulation, par exemple, vous venez citer l'angoisse. Nous sommes angoissés à beaucoup de choses qui font que nous avons de l'angoisse stressée, la persécution. On vous haïsse pour rien comme ça. La faim, c'est ce que nous pouvons vivre, le manque. Je n'ai pas de travail à l'instant, je manque de ceci, cela, je suis nu, je n'ai pas d'habit. Il y a l'épée, le péril. Bien, on a cité ça. C'est-à-dire que Dieu peut permettre des situations difficiles dans la vie d'un enfant de Dieu que je suis. Mais ça ne peut pas séparer l'amour, me séparer de l'amour de Dieu. Parce que dans cette situation que je traverse, mon Dieu est avec moi. Et le 38, là, on nous montre, là, même les anges, même les dominations, les principautés, même des choses à venir, des choses présentes que nous vivons, ni des auteurs, même des réunions diaboliques qui peuvent se multiplier à non, pour chercher à nous faire n'importe quoi. Mais nous sommes couverts de cet amour pour dire que rien ne peut venir nous arracher. Quand on dit arracher, c'est-à-dire nous prendre de cette force et nous faire sortir de l'amour de Dieu. Rien. Nous sommes dans l'amour de Dieu. Nous sommes noyés dans l'amour de Dieu. Ça, c'est la sécurité même. Pour dire que quand nous sommes dans l'amour de Dieu, nous sommes noyés, donc nous sommes confondus à Dieu. Et notre vie dépend de Dieu. Pour dire que n'importe quoi peut se lever. Nous sommes bien solides, solidement fondés dans cet amour. Quelle sécurité. Pour dire que bien aimé, il n'y a pas à paniquer. Souvent, il y a des... Nous avons vu, il y a des accusations. Il y a des réunions qui se font, mais peut-être, soit pour mon frère et ma soeur, soit pour moi-même, soit pour le fumeur, on va voir ceci, cela. Mais l'amour de Dieu fait que Dieu a la chose à ma vie entre ses mains. Amen.
Alléluia. Quelle assurance, frère et soeur, de ce que notre vie se trouve vraiment entre les mains de notre Dieu. Cette parole, frère et soeur, doit être vécue individuellement. Ce que je vis dans ma famille, dans ma maison, dans mon travail, ce que je vis dans ma santé, ce que je vis dans le travail, tout cela n'est pas la même chose dans chaque maison.
Amen.
pas la même chose dans chaque maison.
Amen.
Donc, le verset 35, si je peux relire encore le verset 35 dans la parole vivante, il dit ceci. Qu'est-ce qui pourra s'interposer entre l'amour de Christ et nous? S'interposer, mettre une barrière, tu es de ce côté, Christ est de l'autre côté. Qu'est-ce qui peut s'interposer? Lorsque nous sommes persécutés, que nous manquons de pain, ou que nous manquons d'habits ou d'argent, nous pouvons continuer la liste de tout ce que nous manquons. Est-ce que c'est parce qu'il nous... Parce qu'il ne nous aime plus? Ça, c'est la question qu'il nous aime. C'est parce que Dieu ne nous aime plus? Quand nous sommes exposés au danger ou menacés d'une mort violente, est-ce que c'est le signe que Dieu nous a abandonnés? La réponse est, au verset 36, non. Car l'Écriture nous rapporte cette prière faite dans les psaumes 44, le verset 23, la prière dit ceci. Parce que nous t'appartenons, Seigneur, nous sommes journellement en danger de mort. On nous considère comme des brebis abandonnées à l'abattoir. Donc, pour dire, il n'y a vraiment rien, même si on nous expose une fois dans des situations. À cause de la modernité, un langage qu'on entend souvent ces derniers temps, à cause du développement, à cause de l'économie, à cause de pays développés dans lesquels nous nous trouvons, nous nous exposons à beaucoup de choses, mais il n'y a rien qui peut nous séparer de l'amour de Dieu. Et le verset 38, comme maman Christine l'a déjà cité, on va même aller plus loin. Nous pouvons même ajouter. Même les sorciers peuvent faire tout ce qu'ils font.
Amen.
Même les magiciens peuvent faire tout ce qu'ils font. Les gens de Rose-Croix peuvent faire tout ce qu'ils font. Il ne nous arrachera pas de l'amour que Dieu nous a témoigné. Oui, papa Richard, tu as la parole.
Merci beaucoup, papa, pasteur Célestin. Le verset 37 qui démontre l'impact de cet amour qui nous lie à Jésus-Christ. Et le verset 37 dit, « Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. » Donc, oui. Jésus nous rend plus que vainqueurs. J'essaie d'imaginer qu'est-ce que cela veut dire. Je manque le mot, parce que quand deux personnes se battent, il y a un vainqueur. C'est lui qui a remporté la victoire. Mais quand on parle, on est plus que vainqueur. J'essaie d'imaginer vraiment ce quoi. Du moins, la chose qui essaie de traverser ma tête est que celui qui est plus que vainqueur, il monte dans le ring avec sa victoire en poche. Il proclame à tout le monde que je vais remporter. Et à la fin du combat, il dit, ce que je vous ai dit, voici, je viens de l'accomplir. Et cette personne le fait toutes les fois. Ce n'est pas de temps à autre, on gagne, de temps à autre, on échoue, mais à chaque instant. Et c'est cette garantie que nous avons par l'amour que Jésus-Christ a démontré pour moi. Et cela me donne vraiment une joie de demeurer fermement en ce Seigneur-là qui permettra ni la nudité, le péril, le paix. Non, ça ne peut pas affecter l'amour que j'ai pour le Seigneur, parce que c'est lui qui me rend plus qu'un vainqueur. Je serai vainqueur du péril, je serai vainqueur de la nudité, je serai vainqueur de la faim, je serai vainqueur de la persécution, de l'angoisse, de toutes les choses qu'on vient d'énumérer au verset 35 et 36. Donc, ma victoire n'est pas seulement au démon, mais avec toutes ces c'est qui peuvent influencer ou avoir de l'impact sur l'amour que j'ai pour mon Seigneur. Quel plaisir d'avoir Jésus-Christ comme mon Seigneur et Sauveur. Merci.
Alléluia. Quelle victoire, frères et sœurs. La parole vivante nous dit que Mais dans tous ces combats, parce que la vie chrétienne c'est un combat, nous avons différents combats à livrer. On dit que dans tous ces combats, celui qui nous a tant aimés est près de nous. Il n'est pas loin, il est près de nous, il est en nous, il est à côté de nous. Avec lui, nous restons vainqueurs. Et nous allons de victoire en victoire. Quelle assurance! Quelle assurance de vivre la vie chrétienne en sachant que je ne suis plus n'importe qui. Je vis dans la victoire, je prie dans la victoire, je remporte des victoires. Quelle assurance! Et le verset 39, pour clôturer, nous avons déjà parlé du verset 38. Le verset 39 nous dit, maintenant, ce sont les choses qui peuvent réellement ébranler notre foi, ébranler notre amour. On nous pose encore là une question en disant, qu'elles viennent d'en haut ou de l'abîme. Aucune autre créature, non, rien au monde ne peut mettre de séparation entre nous et l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ notre Seigneur. Dont nous jouissons en communion avec lui. Ça, c'est encore là une interpellation pour que nous puissions chaque jour voir notre communion avec le Seigneur. Notre communion avec le Saint-Esprit, parce qu'il nous a mis dans une situation très privilégiée. Et cette situation fait que nous ne pouvons vraiment pas baisser le bras, abandonner et vivre n'importe quelle vie, vivre dans la médiocrité. Quand je dis vivre dans la médiocrité, c'est vivre loin de Dieu, dans le mensonge, dans la haine, dans le manque de pardon, dans toutes sortes de choses qui des règles ou qui diluent notre vie, notre personnalité avec le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous allons vraiment nous arrêter là. Le Seigneur a voulu que nous puissions commencer ce texte en cherchant, si vous étiez demandé de donner un titre, qu'est-ce que vous pouvez donner? Nous avons réellement parcouru tous les versets, tous les textes pour voir. Il y a vraiment l'amour, il y a la protection, il y a l'assurance, il y a beaucoup de choses. Et maintenant, nous sommes allés dans le détail et nous venons de conclure que nous avons une personne auprès du Père qui intercède chaque jour pour nous. Il a déjà tout accompli quand il était sur la terre, il est mort, il est ressuscité. Mais on pouvait penser que le travail, son travail est fini. Mais maintenant, on nous rassure que son travail n'est pas fini. Il est auprès du Père et il intercède chaque jour pour chacun, pour chacune d'entre nous. Le présent, qu'est-ce que nous vivons? Est-ce que nous pouvons dire que Dieu nous a abandonnés? Non. Le futur, est-ce que nous pouvons dire que Dieu nous abandonnera? Non. Tout ce que nous vivons, il n'y a rien qui a de la valeur comme Dieu qui a donné son Fils pour que chacun et chacune d'entre nous, nous puissions mener et vivre une vie qui honore et qui glorifie notre Dieu. Nous n'avons plus assez de temps de lire le commentaire dans le pain du jour. Nous aimerions saluer les frères et sœurs qui méditent avec nous depuis Alberta, depuis le Québec. Soyez bénis parce que nous avons tous été, et vous et nous, plongés dans la grandeur de l'amour de Dieu. Le camp biblique avance. Prions pour ce camp. Nous traversons l'Atlantique pour ce camp biblique, c'est-à-dire nous allons être en Europe, en Belgique. La communion fraternelle, nous serons ensemble avec les frères et sœurs de toute l'Europe. Il y en a d'autres qui viennent de l'Afrique. Beaucoup vont quitter les États-Unis, beaucoup vont quitter le Canada. Nous allons avoir un fellowship très intense, la communion fraternelle ensemble, dans cette ville de Mâcon, juste à côté de Chimay. Et nous bénissons vraiment le Seigneur. Voilà, frères et sœurs, nous allons, le texte de demain, c'est le psaume, nous allons faire avant de rentrer en Genèse. Nous allons prendre le psaume, je crois, 41.
Oui.
Oui, le psaume 41, avant de rentrer en Genèse. Voilà, frères et sœurs, je vais demander au pasteur Richard de prier, de penser au pasteur José qui ne se sent toujours pas bien. Nous devons le recommander à la grâce, mais aussi prier pour nous, pour que nous puissions vraiment être pénétrés de l'amour que Dieu nous témoigne chaque jour. Prions le Seigneur.
Dieu le Père Tout-Puissant, nous bénissons ton nom parce que ta parole est très claire. Père éternel, si nous les hommes, nous savons nous communiquer les uns les autres, toi qui as créé la communication, tu sais le faire mieux que nous. Merci, Père Papa, pour la parole que tu viens de planter dans mon cœur. Dieu le Père Tout-Puissant, nous prions au nom de Jésus. Que cette parole ne se limite pas seulement au niveau de nos oreilles, mais que cette parole puisse être plantée dans les fins fonds de nos cœurs. Quand les gens nous observent, ils puissent témoigner de l'amour dont tu viens de nous parler ce soir. Nous prions, Dieu, que notre marche te montre que nous sommes liés, attachés à toi. Père éternel, Seigneur, devant le péril, devant les hauteurs, devant les profondeurs. Seigneur, nous voulons être rassurés que tu es là plus près de nous, toi le bon berger. Merci, ô Dieu le Père Tout-Puissant, pour ce soir, nous rappelant encore le bénéfice que nous avons en restant attachés à toi. Nous voulons recommander, ô Dieu le Père Tout-Puissant, ton serviteur, le pasteur José, ici à Raleigh. Dieu le Père Tout-Puissant, que ta main puissante puisse apporter la guérison que toi seul peux le faire. Au nom de Jésus-Christ, nous croyons, ô Dieu le Père Tout-Puissant, en toi. Nous croyons, Seigneur, que tu guéris encore. Pourquoi nous avons cette ferme confiance, la foi en toi, pour la guérison totale de ton serviteur. Recommandons ton serviteur, pasteur Célestin, qui a canalisé cette parole dans les fins fonds de nos cœurs. Dieu le Père Tout-Puissant, que tu le rendes sensible au nom de Jésus. Bénis la grande famille qui a été communiquée. Bénis ceux-là qui vont recevoir ce message. Ô Dieu Tout-Puissant, fais que eux aussi soient bénis de la même manière que nous étions bénis. Père éternel, permets que nous puissions vivre de bénédictions encore quand nous allons mettre en pratique cette parole. Cette nuit même, pendant notre sommeil, ô Dieu Tout-Puissant, nous prions que par la puissance de ton esprit, que tu continues à nous parler, tu continues à nous inspirer des véritables profondes que nous avions exploitées et que nous n'avions pas exploitées. Nous voulons être encore enrichis. Au nom de Jésus-Christ, nous prions. Amen.
Amen. Merci beaucoup, Papa Richard, pour la prière. Peuple de Dieu, que la grâce continue à abonder dans nos maisons, dans nos familles. Allons-y en paix. Amen.
Amen. Amen.